dans la terre. On donne la voix à celles et ceux qui participent à imaginer et bâtir dès aujourd'hui l'avenir agricole et alimentaire de nos territoires. Bonjour à toutes et tous, je suis Léa, chargée de sensibilisation pour l'association Terre et Humanisme et je vais animer cette rencontre. Aujourd'hui, il s'agit de notre premier épisode sur ce nouveau format avec un nouveau titre, Demain dans la Terre. Merci à Arnaud pour cette idée. Un nouveau format qu'on a pensé pour pouvoir inviter plusieurs intervenantes et intervenants autour d'un sujet précis. Notre trame, ce sont les 12 axes de la résilience agricole et alimentaire des territoires, inspirés du travail des greniers d'abondance. Pour ce premier épisode, je vous propose de plonger, sans mauvais jeu de mots bien sûr, dans le sujet de l'eau. L'eau nous concerne toutes et tous au quotidien. Elle est une ressource essentielle à la vie et aux écosystèmes, mais aussi aux activités humaines. On la boit, on s'y baigne, on arrose nos jardins et on irrigue nos champs avec. Et pourtant, on n'y fait pas toujours attention. On a l'impression qu'elle est là, comme par magie, en ouvrant le robinet. Mais c'est quand elle vient à manquer qu'on commence à se questionner. Plusieurs menaces viennent aujourd'hui mettre en péril cette ressource. Mais heureusement, des solutions existent pour une gestion plus durable de l'eau sur nos territoires. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec nos invités de choix. J'ai nommé Olivier Hébrard, docteur en sciences de l'eau et en agroécologie. Salut.
Bonjour.
Brianne Four, chargée de mission milieu aquatique et agroécologie à l'EPTB du bassin versant de l'Ardèche. Bonjour.
Bonjour.
Et Arnaud Vance, formateur en agroécologie et jardinier ici à Terre et Humanisme.
Bonjour à tous.
Salut. Donc, bonjour à tous les trois et merci de participer à ce podcast. Alors, pour commencer, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun votre rôle dans la gestion de l'eau sur le territoire et ou votre expertise générale sur le sujet? On peut commencer par Olivier, par exemple.
Bonjour à toutes et à tous. Merci, Léa. Pour dire ce que je fais, je suis à la fois hydrologue, géologue, agronome et spécialiste de l'approche globale. Ce que j'aime bien faire, c'est les liens entre les différentes disciplines pour comprendre, quand on touche au sol, quel impact sur le végétal, sur l'eau, etc. Et j'accompagne, je conseille des projets en agroécologie, en gestion de l'eau et aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. En fait, qui est la gestion intégrée de la ressource en eau. Voilà, comment on retient mieux l'eau dans le paysage. Et depuis très longtemps, voilà, je m'intéresse à tout ça et de manière assez fine, notamment sur la question d'évapotranspiration, d'infiltration, etc.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Merci. Brianne.
Oui, bonjour à tous. Merci, Léa. Moi, je suis chargé de mission, comme tu le disais, milieu aquatique et agroécologie à l'EPTB de l'Ardèche. Hein. C'est donc une collectivité territoriale qui, finalement, est issu d'un groupement des 11 collectivités du bassin versant de l'Ardèche, finalement, sur lesquelles, si tu veux, ils nous ont délégué la compétence GEMAPI. La compétence GEMAPI, c'est ce qu'on paye tous sur la facture d'eau. Et c'est gestion des milieux aquatiques et des préventions inondations, donc à l'échelle de l'ensemble du bassin versant de l'Ardèche. Et plus particulièrement, moi, je travaille sur l'entrée milieu aquatique, du coup, tout ce qui va être gestion des rivières, des sources, zones humides, jusqu'à... finalement, les cours d'eau, donc le cours d'eau Ardèche, hein, le plus grand. Et puis après, j'ai aussi un volet agroécologie où là, je vais plus particulièrement travailler sur un projet qui s'appelle paiement pour services environnementaux et sur lequel on accompagne un groupe d'agriculteurs volontaires justement pour favoriser un petit peu et accélérer cette transition agroécologique. Hein, c'est soutenu par l'Agence de l'eau en partenariat avec la Chambre d'agriculture 07. Et puis, finalement, on a aussi derrière nous une partie animation et un accompagnement technique là-dessus pour essayer de changer ces pratiques. Mais je détaillerai plus par la suite si vous voulez.
Ouais, merci. Et Arnaud ?
Eh ben moi, du coup, en tant qu'animateur jardinier, formateur en agroécologie, j'interviens, on va dire, pour différents publics, surtout les particuliers, pour les former ou intervenir sur certains types d'ateliers autour des grandes pratiques de l'agroécologie au jardin. Et donc, bien sûr, l'eau, la gestion de l'eau au jardin en fait partie. Et donc, j'essaye d'inculquer aux gens au maximum à la fois les bonnes pratiques à avoir au jardin, que ce soit gérer l'excès d'eau, le manque d'eau, et aussi quel type d'aménagement on peut faire chez soi.
Et tu as aussi co-écrit un livre un peu sur le sujet, on peut dire.
Oui, avec Frédéric Fortin, on a édité pour Terre et Humanisme au mois de mars un livre d'édition Actes Sud qui s'appelle du coup « Adapter son jardin nourricier au changement climatique ». Effectivement, le sujet de l'eau est assez central dans ce livre.
Merci Arnaud, merci à tous les trois. Alors, pour un peu planter le décor, je me disais que pour commencer, ce serait intéressant d'avoir un état des lieux un petit peu de la ressource en eau sur notre territoire du Sud-Ardèche, enfin bassin versant de l'Ardèche. Donc, c'est quoi les particularités hydrologiques de notre territoire, Brian, par exemple ?
On est sur un territoire qui est justement basé sur une météo qui est sévenole, c'est-à-dire avec des périodes d'étiage assez longues, des événements climatiques intenses, c'est-à-dire des fortes pluies avec une intensité, une durée qui peut être plus ou moins forte, mais qui se renforce, on en parlera plus tard, je suppose. Mais pour le coup, on n'est pas du tout sur une pluie assez lisse et homogène au cours de l'année, c'est vraiment des événements climatiques intenses et des périodes d'assec qui peuvent être importante, même en période hivernale, même si globalement on a quand même plus d'eau l'hiver que l'été, hein, une période estivale est très longue sans eau ou avec très peu d'eau, mais globalement on est sur un territoire qui est assez déficitaire en eau, on n'a pas des gros cumuls, à part bon, l'année dernière, il y a quelques années un peu extraordinaires pour le coup, hein, notamment sur des secteurs très localisés, mais globalement on est autour de 600 mm, 700 mm par an, ce qui est assez peu à l'échelle rien que nationale, hein, par rapport à au contexte national. Et donc, globalement, faut faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire une quantité d'eau réduite et qui arrive souvent avec des épisodes sévenoles, donc de pluie intense.
Et est-ce qu'on a des chiffres sur la situation actuelle des cours d'eau, des nappes sur le Sud-Ardèche ?
Bon, oui, enfin, je ne sais pas, je peux répondre. On a quand même quelques suivis. Hein, du coup, il y a des stations de jaugeage, que ce soit pour voir un petit peu au niveau des nappes. Et puis derrière, sur les débits d'étiage, les débits tout au long de l'année, hein, puisqu'il y a des stations de suivi sur l'ensemble des grands cours d'eau, sur l'Ardèche à plusieurs niveaux, sur la Baume et aussi sur le Chassezac, ce qui nous permet d'avoir une bonne idée quand même des débits que l'on a sur les cours d'eau. Le plus intéressant à retenir, hein, je pense, c'est que globalement, l'axe Chassezac ou l'axe Ardèche sont des débits que vous voyez l'été qui ne sont pas réels, puisque au moment du pic, en plein été, c'est-à-dire à peu près au 15 août, 90% de ce qui passe dans les cours d'eau, c'est en fait issu du soutien d'étiage, c'est-à-dire ce qui provient des deux barrages, hein, qui permettent de stocker de l'eau en période de haute eau, hivernale, et de la restituer progressivement durant toute la période estivale.
Donc, pour le commun des mortels, c'est des lâchers de barrages, quoi.
Exactement. Voilà, si on veut faire simple, c'est l'idée.
D'accord.
Progressifs qui permettent d'avoir début juillet jusqu'à mi-septembre un peu plus d'eau dans ces deux rivières. Voilà. Ce qui permet de soutenir les usages, hein. On pourrait parler de fréquentation avec le canoë, mais c'est pas uniquement ça. Faut pas résoudre et restreindre ça à ça. C'est pour ça que c'est assez important à le souligner. Il y a aussi les usages agricoles, notamment le soutien qui permet aussi quand même, lorsqu'on parle de 90% de réduction des débits, il y a certaines espèces qui ne seraient peut-être plus là aujourd'hui. C'est aussi lié à nos activités autour, hein, mais il faut bien se rendre compte que, tout n'est pas ou tout blanc ou tout noir. Il y a quand même des côtés positifs et des côtés certes négatifs avec ces soutiens d'étiage, hein, qui peuvent causer aussi par ailleurs quelques soucis de gestion et aussi pour les milieux avec lorsqu'on a certains éclusés ou autres. Mais quand même, globalement, ça permet d'avoir un peu plus d'eau en période estivale et du coup pour la vie aquatique aussi et pour les différents usages qu'on a sur le territoire.
Alors justement sur ces usages, c'est quoi les usages de l'eau chez nous, mais finalement c'est un petit peu les mêmes ailleurs j'imagine, mais est-ce qu'on peut rappeler pour le grand public quels sont les usages de l'eau domestique, professionnelle ?
Oui, ils sont divers, hein, mais globalement sur le bassin versant par exemple, il faut savoir que c'est à peu près 26% à l'année, hein, si on part sur une moyenne annuelle, sur l'ensemble des consommation d'eau et d'utilisation d'eau qu'on peut avoir, il y a à peu près 26% qui sont pour l'agriculture, 3% pour l'industrie. C'est un peu caractéristique de notre territoire. On a assez peu d'industrie,
oui,
donc c'est assez
énorme.
Peu. Voilà, c'est 3%, c'est assez faible.
Okay.
Et puis après, le reste, c'est quand même plus de 71% du coup pour l'adduction eau potable et les usages qui sont liés à cette eau potable.
Très bien. Et est-ce qu'on a un chiffre sur l'irrigation des jardins dans ces usages ?
On n'a pas ce niveau de précision.
Okay.
Pour le coup. En agricole, hein, c'est ce que je disais, on est plutôt sur l'ordre de 4,4 millions de mètres cubes. Là, c'est du déclaratif aussi. Il faut savoir qu'on est loin d'avoir tous les forages recensés, tous les prélèvements sur les petits cours d'eau notamment, qui sont recensés. Donc ça donne une indication. On est en train de travailler là-dessus, hein, avec les services de l'État, mais on essaye de faire ça au mieux pour que tout le monde accepte d'y aller. La partie eau potable qui est utilisée par contre par les usagers, qui soient d'ailleurs en résidence principale ou pour le tourisme, notamment pour les jardins, on n'a pas de chiffres très précis là-dessus.
Ok. Alors, on rentre dans le dur du sujet. Quels sont, vous diriez peut-être Olivier, tu peux nous en parler, quelles sont les principales menaces pour la quantité, la qualité de l'eau, enfin, les principales menaces sur l'eau aujourd'hui?
Alors, les menaces, alors je vais faire un lien, je vais rebondir sur ce qu'a dit Brian. Sur ce qu'a dit Brian, excuse-moi. En fait, déjà par rapport aux barrages, donc effectivement, ils sont souvent utiles aujourd'hui par rapport au soutien, mais en fait, ils sont arrivés aussi parce qu'on a très fortement dégradé par le passé les milieux. Ça, c'est général à l'échelle de la planète. Je pense qu'on fait des bêtises, on l'a fait et on continue à le faire sur plein d'endroits. Où en gros, on a coupé massivement la forêt, c'est-à-dire au début du 19e siècle, on est arrivé jusqu'à... où il restait 4 millions de kilomètres carrés de forêt, si je ne dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas. Et à l'époque romaine, on était à 40 millions, c'est-à-dire on est arrivé au dixième de ce qu'il y avait à l'époque romaine, où la plupart des sols, des milieux, se comportaient comme des éponges, en fait, de manière naturelle. La nature...
Tu parles de quel territoire là?
Partout, là, de manière générique. Je vais venir après sur l'Ardèche.
Okay.
De manière globale, que ce soit en Ardèche, en France, dans le monde, un peu partout. En fait, la nature a tout conçu de manière à ce que les milieux se comportent, gèrent bien à la fois les excès et les manques d'eau. Ça, c'est le côté... la nature, elle fait les choses de manière ultra logique. On a déboisé très fortement pour arriver à 4 millions d'hectares, donc le dixième. Et c'est là où il y a des histoires comme l'histoire de l'Aigoual. On a très fortement déboisé, et donc quand on déboise, après souvent c'était le pâturage qui arrivait, surpâturage, parce que c'était l'économie de l'époque, et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans certains pays où l'économie dominante est basée sur le pâturage. Donc qui dit surpâturage, érosion, perte des sols, perte de l'eau qui peut être stockée dans les milieux. Et donc aujourd'hui, même si en Ardèche et d'autres départements, ça s'est reboisé, en apparence, on a malgré tout perdu beaucoup de sols et beaucoup de cette capacité d'éponge. Voilà, donc sur les territoires. Et ce qui fait que l'eau, justement, elle passe trop vite, surtout compte tenu du contexte d'événements Sevenol qu'a évoqué Brian. Donc l'eau, elle ne fait que passer, elle se retrouve donc. Elle passe et va trop vite à la mer, et donc les barrages sont un moyen de bloquer ça. Donc ça, c'est le premier truc. Il faudrait trouver un moyen de mieux retenir l'eau, du coup, dans le paysage. Et on y reviendra plus largement plus tard. Et le deuxième truc, deuxième facteur là, la chape qui est en train de nous tomber dessus, c'est l'accélération, je ne parle rien, d'accélération des changements climatiques. Voilà, là, comme je vous disais, je suis arrivé avec des données fraîchement dépouillées là, de 2025. C'est la station de Nîmes-Garonne, mais c'est les mêmes choses, les mêmes dynamiques sur les données sur des stations météo de basse altitude ardéchoises. C'est qu'on a une explosion des températures estivale, maximale notamment. Alors je regarde celle-là, j'y reviendrai plus tard, parce qu'elles ont un effet sur la physiologie des végétaux. Et elles vont, ces végétations estivales vont aussi engendrer plus d'évaporation des sols et plus de transpiration des végétaux. En gros, à pluie égale, on va perdre beaucoup plus d'eau par évaporation et transpiration. Ce qu'on appelle la demande climatique, évapotranspiration potentielle, va solliciter au milieu beaucoup plus d'eau pour répondre. Et du coup, dans la balance... dans les bilans hydrologiques, on appelle la balance. Du coup, même si on a à peu près la même quantité de pluie, mais en plus distribuée de plus en plus irrégulière, on a par contre de plus en plus de pertes par évaporation et transpiration. Et c'est ça la principale menace. Donc il va falloir composer, avoir des stratégies, et c'est ce qu'on va évoquer tous ensemble tout à l'heure, pour retenir au maximum l'eau et avoir des stratégies pour pas que cette eau parte trop par évaporation, transpiration, etc. Enfin bon, voilà. Donc c'est ça la grosse menace qui arrive. En gros, pour donner des chiffres, sur les températures estivales maximales entre les années 1960 et on va dire aujourd'hui, dans le sud Ardèche, on a pris sur température journalière maximale, c'est-à-dire qu'on prend chaque jour le maximum atteint et on fait la moyenne sur les mois de juin, juillet, août. Et on regarde et on compare ce qu'il y avait il y a 60 ans aujourd'hui et on est à plus de 4 degrés de différence. Ouais. C'est-à-dire qu'un arbre qui est né dans les années 60 se prend aujourd'hui 4 degrés de plus l'été. Sauf qu'au-delà de certaines températures, la physiologie, le fonctionnement de ces arbres n'est plus le même. Et les légumes,
Bien sûr. Et ça s'observe déjà.
Et là, ça s'observe clairement. Là, on est en train de franchir des seuils qui sont assez critiques.
Et alors, donc là, tu parles des menaces sur la quantité d'eau, mais est-ce qu'il y a aussi des menaces sur la qualité de l'eau? Est-ce que c'est les mêmes?
Alors, c'est pas les mêmes, peut-être...
Peux compléter un peu au niveau local ce qu'on a, puisqu'on a, on a fait une étude, elle est assez récente, hein, elle s'est terminée en fin 2023, c'est Stratégie Ardèche 2050 à l'EPTB, Et justement, l'idée, c'était de faire un peu le bilan de ce qu'on avait en termes de climat, les changements qu'il y avait déjà eu, et puis quelles prévisions, et du coup, vers quelles tendances on allait pour prévoir une stratégie, essayer de développer une stratégie avec des actions pour essayer de répondre justement aux enjeux du territoire. Et par rapport à ce que tu viens de dire, ça colle assez bien. Il y a déjà, sur les dernières 60 dernières années, on en parlait tout à l'heure, on est déjà à plus de 2,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et puis, on a donc, en lien avec ce que tu disais, plus 38% d'évapotranspiration à l'échelle locale. C'est ce qui a été démontré du coup par cette étude.
En moyenne sur l'année.
En moyenne, ouais. C'est une moyenne annuelle, là, pour le coup. Et ce qui impacte déjà fortement, en effet, l'eau disponible ou la quantité d'eau qu'on va pouvoir stocker localement, puisque de toute façon, elle va s'évaporer avec ces arbres-là. Et puis au-delà de ça, pour compléter un peu sur le territoire, sur les plateaux, on a aussi autre chose. Ce n'est pas juste le déboisement. Il y a aussi les tourbières qui ont été exploitées. Donc on a perdu en quantité de tourbe disponible, qui est vraiment la qualité, entre guillemets, la quantité d'éponges disponibles pour stocker cette eau, et notamment sur les têtes de bassin versant, donc sur les sources qui restent les plus fraîches, sur lesquelles on peut avoir de la neige l'hiver, et donc un temps de stockage résiduel qui va augmenter. Et donc, en lien avec ça, finalement, on se retrouve plus le reste, hein, parce que au-delà de ce que tu disais du déboisement, il y a en effet ces zones humides, ces tourbières de têtes de bassin versant qui ont été dégradées, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est sur des cours d'eau en Ardèche, mais ce n'est pas que ici, qui ont tendance à s'inciser, puisqu'en fait, à avoir voulu les contraindre à un endroit donné, puisqu'on a nos activités qui se sont développées autour, hein, que ce soit l'urbanisation ou même l'agriculture, on veut aujourd'hui que les parcelles, elles soient globalement une parcelle qui est à un endroit, on ne veut pas que ça évolue et on ne veut pas qu'elle puisse se faire rogner, ce qui est problématique en effet pour les agriculteurs directement qui vivent autour, problématique lorsqu'on est à côté d'une zone urbaine par exemple. Mais finalement, ça a une autre contrainte importante sur la qualité et la quantité d'eau disponible, c'est que ces cours d'eau, en s'assisant, en fait, ils n'ont plus de capacité, ils sont plus liés avec leur aquifère autour de la rivière, et donc on a tendance à drainer et finalement assécher ces aquifères autour, ce qui en retour pose d'autres soucis, parce qu'il faut irriguer plus pour avoir finalement des productions qui arrivent à se tenir autour du cours d'eau, mais surtout on ne retient presque plus d'eau. Et donc, oui, l'eau, elle passe, et puis en fait, on a du mal à la retenir sur site. Et là aussi, on est en train de travailler là-dessus, on est en train d'essayer d'élaborer, c'est moi qui travaille dessus, une stratégie donc, sur la gestion finalement des zones humides et des cours d'eau et de leur espace de bon fonctionnement pour essayer d'avoir une vision un peu globale et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour favoriser l'infiltration, limiter cette incision des cours d'eau à une échelle temporelle avec des actions qui commenceraient dans les prochaines années à venir et puis avec un pas de temps qui s'augmenterait ensuite par la suite. Pour essayer de répondre justement à ces enjeux du territoire, sur lequel, par exemple, pour l'agriculture, je me déplie un peu la parole, je vais aller vite, mais pour l'agriculture, on est aujourd'hui, tout à l'heure, je disais, à 4,4 millions de mètres cubes par an. La stratégie Ardèche 2050, les prévisions, c'est si on reste avec justement cette évapotranspiration qui augmente, éventuellement les cultures qui, si on les maintient comme ça, voire on irrigue de plus en plus, on passerait de 4,4 millions à 12 millions de demandes de mètres cubes par an. De demande pour l'agriculture. Et donc là, lorsqu'on fait les comptes, par exemple, ce qu'on stocke dans les deux barrages en haut, déjà, il faudrait arriver toujours à les remplir en 2050, c'est 22 millions de mètres cubes qu'on permet et qui sont utilisés ensuite l'été pour avoir ce soutien d'étiage. Donc voilà, on a vraiment une équation, va falloir aller certes vers la sobriété, mais ça ne suffira pas. Donc voilà, il y a toute une dynamique et quelque chose à reprendre à la base pour essayer de trouver des solutions un peu innovantes fondées sur la nature parce que de toute façon il va falloir partir là-dessus, on peut pas lancer des projets à tout va, à des millions et des millions, donc il va falloir aussi travailler avec ces solutions fondées sur la nature.
Alors justement, c'est quoi les solutions? quelles sont les solutions, si c'est pas clé en main j'imagine, mais est-ce qu'il y a des, quelles sont les adaptations déjà à prévoir sur le territoire, et puis comment on peut s'y préparer au mieux, et du coup aussi quels acteurs sont impliqués, c'est-à-dire ce qu'on peut faire au niveau individuel, au niveau collectif, comment on se concerte avec tous les acteurs pour définir des solutions collectives. Donc là, vous avez peut-être tous des choses à dire là-dessus. Qui c'est qui veut prendre la parole en premier?
Allez, je me lance.
Olivier, vas-y.
Oui, je pense qu'on va avoir tous des choses à dire là-dessus. Oui. Pardon. Oui, donc il faut que tous on soit impliqués de la même manière que chaque consommateur est un consommateur. Hein, donc ça commence. En gros, la mer, elle commence à son robinet déjà. Donc c'est passage, enfin celles et ceux qui le peuvent en toilette sèche, c'est voilà consommation de légumes locaux, c'est enfin voilà tout, bon, toutes les choses, les grands principes qu'on connaît, qui sont valables de manière globale pour l'agroécologie. Ça, au niveau individuel, il n'y a pas de souci. Et ensuite, bah, à mesure qu'on va aller à l'échelle de la ferme, du paysage, de manière globale, c'est de réfléchir comment mieux retenir l'eau dans le paysage. C'est vrai que tout a été un lien, notamment à ce qu'on a évoqué, que ce soit les tourbières, que ce soit le déboisement. Beaucoup d'eau file beaucoup trop vite à la mer. En fait, elle tombe, elle part, elle va à la mer. Donc, elle ne participe pas à l'ensemble des cycles sur les continents, en fait, et notamment en Ardèche, voilà, puisqu'elle descend trop vite, du coup, elle passe, elle fait que les gens la regardent passer, en gros. Donc, d'où des fois, idées de la retenir maladroitement, on va dire. Et donc, voilà, donc il faut plutôt que réfléchir, le meilleur moyen de la stocker de manière des fois un peu maladroite, on va dire.
Tu parles de quoi quand tu dis
Clairement, tous les travers des bassines,
des
par exemple.
Ouais.
Voilà, je ne suis pas forcément très fan. Le meilleur moyen de stocker de l'eau, bah, c'est dans le sol, dans les paysages et aussi dans les aquifères. C'est-à-dire de cette eau qui passe, bah, c'est de l'eau, comme l'a dit Brian, voilà, qui aujourd'hui, quand on incise les cours d'eau, elle passe trop vite. Donc, elle n'a plus le temps d'être freinée et d'avoir la possibilité localement de descendre dans les aquifères. Et donc, c'est de réfléchir comment on peut mieux recharger les aquifères. En tout cas, plus on améliore le sol en vivant. Enfin, voilà, toutes les pratiques agroécologistes qu'on peut appliquer au milieu naturel, une gestion globale, c'est de retenir cette eau pour, donc, à la fois qu'elle soit dans les sols, pour améliorer le fourrage, améliorer la gestion des arbres. Enfin, voilà, de manière, on reviendra en détail après. Et ensuite, qu'une partie de cette eau puisse s'infiltrer. Donc, cette eau qui s'infiltre, donc, c'est des quantités qui sont largement plus supérieures à celles qu'on peut stocker dans des bassines. Sauf que l'eau, elle est de qualité, elle est fraîche, enfin voilà, elle est disponible quand on veut, à l'aval, elle ressort dans les sources, voilà, elle va alimenter les rivières pendant les débits d'étiage. Donc cette eau, elle peut être utilisée pour les loisirs, pour l'agriculture, pour la biodiversité. Voilà, donc c'est vraiment la meilleure eau, c'est de la refaire, s'infiltrer, optimiser là-dessus et travailler de manière à l'échelle du paysage. Voilà, donc ensuite, ça ne fait pas tout. Alors, c'est ce qu'on appelle globalement l'hydrologie régénérative.
Et ça ne se fait pas du jour au lendemain aussi.
Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça peut aller assez vite. Il y a des moyens voilà, d'inverser des choses, parce que partout, dans le paysage, il y a des mauvaises pratiques. Il y a des choses où on fait que l'eau, elle part trop vite. Et du coup, il faut réfléchir à comment la ralentir et qu'elle s'infiltre mieux. Donc voilà, là, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je vais laisser compléter Ryan.
Oui, bah après ça c'est en effet hein, par exemple le PTB, on va avoir des actions pour le grand public, justement la gestion de l'eau au jardin, des choses comme ça.
Mais j'allais te demander quelques actions clés.
Voilà, on a ce genre d'action avec l'association Vie notamment qui fait ça aussi pour le PTB. Mais pour le coup, au-delà de ça, on a vraiment à l'échelle plus macro, je dirais, un rôle d'assemblier pour mettre tout le monde autour de la table, essayer de discuter un peu comment on se partage l'eau, comment on gère l'eau à l'échelle du territoire. Et puis derrière, c'est avec les urbanistes, ça va être avec le monde agricole, ça va être avec, même si c'est l'industrie 3%, c'est important quand même, ça va être avec tout ce qui va être les acteurs du tourisme, puisque c'est pas juste les canoës, c'est aussi les gens qui viennent du coup pour profiter de ces activités ici, pour profiter du territoire. Hein, Mais disons qu'il faut travailler à tous les étages à cette sobriété. Et puis après, en effet, c'est aussi, quand je disais avec les urbanistes, ça va être essayer de... comment on fait que cette eau, finalement, on n'imperméabilise pas tout, qu'on laisse de l'espace disponible dans cet espace, justement, que je disais tout à l'heure, de bon fonctionnement des cours d'eau et des zones humides, où là, on se dit, c'est à minima des espaces qu'on se laisse pour favoriser l'infiltration de l'eau, la rétention de l'eau dans les sols. Et ça ne va pas juste, c'est pas d'y mettre autour du cours d'eau, hein, c'est vraiment des espaces plus larges. Après, c'est de la concertation, c'est là où je disais on a un rôle d'assemblier, mais on a ensuite, comme par exemple, la commission locale de l'eau, qui va ensuite décider finalement de ces orientations qu'on se donne, éclairées avec les différents groupes techniques qu'on va pouvoir avoir, pour essayer de préciser un petit peu quel impact de telle ou telle activité ou quel intérêt de telle ou telle pratique. Et ensuite, c'est retranscrit aussi hein, par derrière dans le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau à l'échelle du territoire. Et ça, c'est vraiment ce qui va nous donner l'orientation, la stratégie finalement pour gérer l'eau à l'échelle du territoire.
C'est terminé pour cette première partie de notre émission « Demain dans la Terre » sur le thème de l'eau. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la deuxième partie. Merci et à très bientôt.